Bonsoir tout le monde, nous revoilà par les temps qui courent. C'est chaque soir un entretien avec les artistes qui sont dans l'actualité culturelle. Ce soir avec Ludmila Mikael.
Un tango, une danse, un baiser.
Du bêta, bêta, bêta.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis va-t-il là.
Marie Riche.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
En 1959, Aristote Onassis fait amarrer son célèbre yacht dans le port de Monte-Carlo, le temps de conclure quelques affaires. Sur ce bateau, on sait que Greta Garbo et Winston Churchill se rencontrent et c'est tout ce qu'on sait. À partir de cela, Isabelle Le Nouvel imagine un dialogue suspendu entre celui qui a tant côtoyé la guerre et les a traversés en les regardant en face et celle qui s'est retirée du cinéma mais dont le visage et le nom continuent de fasciner dans le silence. Les deux s'admirent mais se heurtent et dans ce dialogue inventé, il est question de solitude, de liberté et de prix à payer pour les deux, de politique, d'amour et de jeu. « Je veux qu'on me laisse tranquille », dit Greta Garbo, pas forcément toute seule, et la nuance est grande. Sur scène, Nils Arestrup interprète le vieux lion britannique, tandis que vous apparaissez sur le pont, dans le mystère de celle qui se fait appeler Miss Brown, pour voyager incognito. Scorpios, au loin, est joué au Théâtre des Bouffes Parisiens, dans une mise en scène de Jean-Louis Benoît jusqu'au 6 janvier. C'est vous qui apparaissez, Ludmila Mikael. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup. C'est agréable ce moment où vous apparaissez comme ça sur le pont.
C'est un moment que j'ai beaucoup redouté aux répétitions. Je peux même dire que je n'aimais pas du tout cette passerelle. La première fois que je suis montée, je me suis dit, oh, c'est pas possible, j'ai le vertige, ça ne va pas. Le décorateur Jean Haas me l'a rappelé assez récemment. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est exactement le contraire. En fait, c'est mon espace. J'adore être là. J'y retourne une deuxième fois dans le cours du spectacle. Et c'est finalement, je trouve une très belle idée de Jean-Louis Benoît. Ça me permet d'avoir une distance et de, je suis pas encore vraiment complètement avec eux. Et ça, donc, j'ai un petit sas qui est assez délicieux maintenant.
Et puis vous le regardez, lui il est déjà en scène, le Churchill Arestrup, et puis vous apparaissez silencieuse. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile à trouver, cette première présence?
Oui, et c'est une chose d'ailleurs que je retravaille chaque soir, et d'ailleurs l'ensemble du rôle, je dirais, parce que je sais qu'il y a eu une période où j'étais plus rieuse, plus... Et puis soudain j'ai pensé que c'était intéressant qu'elle soit un peu opaque. Et que ce côté un peu rire qui arrive, ce soit simplement un rire de gêne et de pudeur quand il la regarde. Mais qu'avant, en fait, on ne sait pas trop. Et ça, c'est plutôt ça maintenant. Oui, mais de toute façon, dans ce spectacle, chaque seconde, et vous parliez de suspens, mais c'est exactement ça. Et il n'y a pas un moment où on peut se dire, bon, ça, voilà, ça compte pas, ou on va passer, oui, enfin, en général pas, mais on n'a pas de repos. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de loupe et on a l'impression d'être à vue de façon terrible. Et c'est normal, puisque là, c'est son idole qui entre en scène. C'est l'idole de Churchill. Il en était fou de cette actrice et c'est réel.
Et puis quelque chose d'important se joue sur cette question-là, de se laisser voir par l'autre. Quand je dis ils sont différents, ils se heurtent, il y a quelque chose de la rencontre qui arrive mais n'arrive pas. Et puis se laisser voir pour vous les deux comédiens, parce que vous êtes quasiment seul en scène, pas exactement, pendant une heure et demie, dans un décor qui va bouger à peine. Donc vous êtes très à vue d'une certaine manière.
Très exposé, très vulnérable et en même temps très fort, mais très... Il y a quelque chose du vertige. Je sais que il y a une émotion un peu vertigineuse qu'on sent dès qu'on est sur le plateau. Il faudrait demander à Nils parce que lui, il est en scène avant moi, mais je sais, moi, j'ai l'impression d'être un peu en apnée et je sens que tous les regards convergent sur nous et qu'on va être comme ça sous le feu des regards et des oreilles, sans arrêt. Donc, il y a quelque chose de l'équilibrisme, du funambulisme. étrangement, je sais pas pourquoi, je pense là, ça me vient à des sensations que j'ai eues quand je jouais la tragédie, où il y avait juste le texte et rien d'autre, et l'intériorité, et où il n'y a pas une action folle, où il n'y a pas de, voilà, quand c'est joué très simplement, où, voilà, il y a de ça, et, en même temps, ce qui est beau, c'est qu'on, ce qui est la grâce du théâtre, c'est qu'on peut remettre son ouvrage le lendemain, et on se dit, tiens, aujourd'hui, ça n'allait pas. On gagne des moments, on en perd d'autres. Les soirs réussis, mais ils sont pas nombreux, c'est quand on a tous les moments, qu'on se dit, bon, allez, du premier mot jusqu'à la fin, ça allait. Mais ça bouge, en fait, ça bouge, et puis ça bouge avec le public. Parce que, on les sent énormément. Il y a une, dans ce spectacle, il y a une écoute, quelque chose. Enfin, on peut presque, je dirais, reconnaître chaque personne. Enfin, au son. Enfin, c'est quand même. Il y a une communion assez forte. Oui, c'est.
Parce que c'est un dialogue quasi ininterrompu. Il y a parfois des silences, mais ils font partie tout à fait à part entière du dialogue entre ces deux êtres-là. Donc vous tenez la salle, vous tenez ce spectacle à bout de bras, à bout de mémoire, à bout de diction, à bout de corps. Est-ce que vous avez l'impression de quelque chose de... Je me suis demandé hier, est-ce que c'est éreintant, quoi, au moment du salut? Est-ce que vous vous dites, bon, c'est un bout de chemin quand même?
Oui, alors que je ne pensais pas, parce que j'ai beaucoup joué dans ma vie des choses très éreintantes, mais évidemment éreintantes.
Bien sûr.
Des Hugo, des Claudel, des heures et des heures dans les... Dans des transports, voilà, ou des choses plus démonstratives. Mais en fait, c'est éreintant. Et on se le dit toujours avec Nils Arestrup, on est un peu, pardon de la familiarité, rincé. Les rappels, en même temps, on est heureux parce qu'il y a un accueil merveilleux, mais moi, le lendemain, je le sens. S'il y a quelque chose dans le corps qui, alors peut-être parce qu'on vieillit aussi et qu'on a la récupération est moins rapide. Mais je n'aurais pas imaginé que ça allait l'être. Je pensais que c'était plus doux, mais en fait non. Par cette sorte de chose tendue, et cette exposition maximale. Et chaque mot, on a l'impression que chaque mot et chaque silence, comme vous dites, mais chaque geste aussi, fait sens, et que on a une sorte de devoir chaque soir de chercher l'exactitude. Quoi. C'est comme c'est musical aussi.
Et puis, ils se cherchent, ils se taquinent, il y a cette tension-là aussi qui est forte entre deux.
Parce qu'il y a tout, c'est-à-dire qu'on passe par beaucoup d'états, parce qu'il y a la première fascination, d'ailleurs, elle est fascinée par lui, c'est quand même un homme extraordinaire, le sauveur du monde libre, lui, c'est son idole, donc il la fantasme. Donc il y a une première partie qui est effectivement de fascination réciproque, et puis ça va se gâter relativement vite, enfin gâter, c'est-à-dire qu'il y a des petites choses déjà où il veut ne s'adresser qu'à elle en tant qu'actrice. Et elle va commencer par fuir, et puis finalement, il va l'obliger à se révéler, parce que c'est ça qui le dérange chez elle, c'est ce renoncement. C'est comme une pièce sur le renoncement, et qui pour lui est un échec, enfin c'est un aveu d'échec complet. On ne renonce pas, on ne capitule pas, alors qu'en fait, elle ne le vit certainement pas. C'est très complexe, enfin Garbeau, c'est... Je me suis beaucoup penchée sur elle. Je la connaissais à travers ses films et je ne connaissais pas bien sa vie, sa personnalité. Et j'ai lu beaucoup de choses sur elle. Et c'est quelqu'un de terriblement complexe parce que très secret. Là, évidemment, on prend la pièce à un moment où il n'y a plus aucune trace d'elle, à part des photos. Il n'y a pas de trace sonore, il n'y a pas d'interview, il n'y a rien. Donc c'est une création absolue parce qu'on peut... on la connaît dans les films, mais dans la vie, à part le col relevé à Manhattan, les lunettes noires, sur le yacht d'Onassis d'ailleurs aussi, certains moments sur les ponts de bateau avec la tête renversée, enfin moi j'ai beaucoup vu de photos aussi, mais donc elle était complexe. Moi je me suis prise de passion pour cette femme, en fait. Ça a été la bonne nouvelle. Après avoir accepté, parce qu'on quelquefois on accepte et puis finalement on s'aperçoit que le personnage, là, on trouve pas de... On peut pas être son avocat, et en fait, si je et donc elle est très souterraine, et elle va elle-même effectivement jouer avec lui, échapper et essayer de se révolter aussi parce qu'il la pousse à bout. Et ils vont, bon, c'est une rencontre qui ne se sera faite sans se faire. Enfin, c'est un peu une rencontre un peu ratée, non? Je sais pas. Enfin,
mais pas que.
Non, ce que je trouve tout à fait étonnant, c'est que c'est un personnage qui est comme un kaléidoscope. à chaque film, on a l'impression de redécouvrir. Et quand on voit tout simplement une cinquantaine de photos, on est étonné, c'est la même personne, et chaque visage est totalement différent. Et c'est ça qui la rend, je crois, extrêmement moderne, en fait. C'est quelqu'un sur laquelle, vous connaissez l'anecdote de Mamoulian, quand ils ont tourné le dernier plan, le grand plan de la reine Christine, Garbeau a demandé à Mamoulian qu'est-ce que je dois faire. Il dit rien. Surtout rien que le spectateur puisse imprimer sur votre visage ce que lui ressent, pas ce que vous ressentez. Soyez comme une espèce de page blanche sur laquelle le spectateur pourra écrire. Et moi, j'avoue, c'est ce qui m'a toujours fasciné dans le film de Garbeau, c'est de voir cette espèce de visage transparent, lumineux, sur lequel chacun peut écrire ce qu'il ressent.
Do you still want to sail, Your Majesty?
The house on the cliff. Yes, Ogre, we will sail.
I'll tell the captain. The tide is full and the wind is with us.
The wind is with us.
Si vous voulez tourner à nouveau, vous tournerez. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Toute ma vie, moi, j'ai pris mes désirs pour la réalité. Et je me suis rarement trompé. Mais je me suis donné les moyens de faire entrer les rêves que j'avais dans ma vie.
Sans doute parce que vous aviez de très grands rêves et un très grand destin à accomplir. Mais moi, mais nous, les acteurs... Nous sommes moins que des marionnettes.
Vous n'êtes pas une marionnette, ma chère. Vous êtes Greta Garbo.
Je l'étais.
Et vous vous bouchez les oreilles.
Oui, mais parce que le son, en fait, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est le juge de paix, le son. Je pense que c'est par le son qu'on sait si c'est juste ou pas. Mais ce que je viens d'entendre, je ne sais pas de qui parlait.
Alors, on entendait Patrick Brion, oui, en 1985, dans l'émission de Bernard Pivot, dans Apostrophe, dire Greta Garbo, kaléidoscope, elle change tout le temps. Elle a un visage comme un écran de cinéma sur lequel on peut projeter ce qu'on veut.
Parce que ce qui est beau, c'est qu'elle semble immobile et en même temps elle est complètement mobile. Parce qu'elle est incroyablement émotionnelle. Et elle l'était dans la vie, elle était très contradictoire, elle était à la fois quelqu'un de très, qui était dans la défiance et en même temps dans des joies tout à fait enfantines. Elle est très paradoxale et très mobile. Et en même temps, si on pense Garbeau, on pense quelque chose de lisse, mais non. C'est lisse et le contraire du lisse. C'est lisse et tout le temps. Et ça m'a vraiment plu d'entendre ça parce que je ne connaissais pas cette interview. Et finalement, en lisant sur sa bio et en essayant de travailler un peu sur elle, je pense qu'elle est justement très, à l'intérieur en tous les cas, très mobile, même si son visage peut ne pas l'être. Mais est incroyablement émotive.
Et ça, c'est quelque chose que vous avez cherché, que vous avez... duquel vous avez essayé de vous approcher en jouant Garbeau sur scène, cette mobilité, immobilité?
Oui, je continue à chercher et je pense que le passage d'état à un autre, c'est une chose réelle. On pouvait la voir à 2h l'après-midi dans une grande euphorie, parce qu'elle avait des moments très heureux. Et quelques heures plus tard, on disait, on la retrouvait absolument abattue, etc. Elle pleurait, elle pouvait être très... Quelqu'un dit d'elle que c'était comme un colibri, c'est-à-dire qu'on pensait qu'elle était là, elle était là à côté de vous, on se tournait et elle n'était plus là. Elle fuyait tout le temps, je pense qu'elle était écorchée vive, même si elle prétend ne pas l'être dans la pièce, elle dit plus rien le matin, c'est exactement le contraire. Je pense qu'elle a forgé aussi une protection énorme qui s'est développée beaucoup à Hollywood, puisque quand elle est arrivée, on l'appelait la grosse vache suédoise, elle n'était pas du tout... elle a eu du mal à faire accepter ce qu'elle était. Elle a beaucoup souffert, elle avait l'impression d'être exilée, elle l'était, elle ne pensait qu'à sa Suède natale, qu'à son pays. Elle était mal, elle disait, j'ai l'impression d'être, quand je suis au studio, avec une marâtre. Et elle a développé une force incroyable, et sûrement cette force d'opacité, comme ça, où on se dit, mais qui sait quoi? C'est sa défense. Mais ça, c'est le contraire de quelqu'un de froid. C'est le contraire de quelqu'un de rigide. C'est le contraire. Ça, je sais pas si je la connais, mais bon. Maintenant, quand on n'a pas, c'est difficile d'incarner Garbeau, qui a été en tout cas pendant 20 ans considérée comme une des plus belles femmes du monde. Donc, il faut oublier. De toute façon, là, elle n'est plus dans cette période de jeunesse, elle est déjà dans un début de maturité, mais oubliez qu'il y a un physique, il faut vraiment arriver à se relier à ce qu'elle est à l'intérieur.
Et c'est ça qui rend fou Churchill dans la pièce que vous jouez, Ludmila Mikhaël, c'est que lui, il se cogne contre le mur, il se cogne contre sa, contre ses protections, et à la fois, il voit en elle l'actrice, le symbole, et en même temps, il est extrêmement intrigué par la femme, voire l'enfant qu'elle a été. Voilà. Il la renvoie énormément à cet enfant. Vous êtes un enfant qui, petite fille suédoise qui veut prendre sa revanche. C'est celle-ci qu'il faut aller écouter dans le dialogue qui est imaginé par Isabelle Le Nouvel. C'est très présent.
Et en fait, il y a cette grande confession sur le père, sur la, son enfance, et qui est une chose bouleversante et qui est l'absolue vérité. C'est-à-dire qu'effectivement, son père est mort sous elle.
À 14 ans.
Voilà, 14 ans. Il était un très grand alcoolique. Elle faisait les bars du quartier. Et puis un jour, ben, il avait les lèvres et les mains bleues, et pour le réchauffer, elle s'est allongée à côté de lui, ou presque sur lui, et elle a été réveillée par la plaque de glace. Ça, c'est une réalité. Et effectivement, elle a dû abandonner l'école. Elle est devenue employée shampoingeuse chez un coiffeur pour hommes. Elle partait à pied. Elle a une vie extrêmement difficile. Elle s'est battue, et puis un jour, parallèlement, ce qui est très important, qui n'est pas, mais c'est pas le sujet de la pièce, c'est pas un biopic sur Garbo, mais elle est rentrée au, l'équivalent du conservatoire à Stockholm de théâtre, c'est-à-dire à l'académie de Stockholm, où elle travaillait Ibsen, Shakespeare, c'était ça son rêve. Et que quand elle était petite, à 12 ans, elle attendait les acteurs de théâtre à la sortie, elle rêvait de théâtre, elle montait des pièces de théâtre avec sa sœur, avec ses amis, elle ne rêvait que de ça, et d'être actrice, et de brûler les planches, parce que je pense que c'est quelqu'un, quand je pense à elle, c'est quelqu'un qui brûle. Et puis, elle fait, parallèlement, pour gagner sa vie, elle rentre dans un magasin, un grand magasin, elle est au rayon chapeau, on lui dit, elle a un très très joli visage, elle est un peu ronde à cette époque, mais très belle, elle fait des photos pour les chapeaux, puis on la trouve jolie, assez photogénique, et puis là, un film publicitaire, puis un autre, et c'est là que Maurice Stiller va la repérer, devenir son mentor, son ami, on ne sait pas, son amant, ça c'est un point d'interrogation, et puis va l'amener à Hollywood. Et va la faire d'abord tourner en Suède, et puis voilà, c'est une histoire qui, en fait, c'est assez poignant, parce que elle a une enfance absolument massacrée. D'ailleurs, Churchill aussi.
Mais oui, j'allais dire, voilà. C'est des points de rencontre. Il y en a plusieurs, des points de rencontre.
Celui-là et aussi leur mélancolie profonde que Churchill appelle, le chien noir, parce qu'elle connaît aussi le chien noir. C'est évident qu'elle connaît le désespoir, la mélancolie en fait. Cette chose qui vous tombe dessus à la tombée du jour. Quoi.
Il y a la mélancolie, ce chien noir, l'alcool. C'est pour ça que quand ils se rencontrent, à la fois ils voient les êtres publics qu'ils sont l'un et l'autre. Et en même temps, on sent qu'intimement, ils reconnaissent quelque chose qui leur est plus profond, une sorte de gémellité étrange. Oui. Et c'est ça qui brûle aussi entre eux. C'est parce qu'ils savent que l'autre, il y a quelque chose chez l'autre qui leur ressemble.
Exactement. Et ça, c'est ce que je trouve très beau, c'est cette révélation-là dans la pièce qui va se faire et qui fait qu'effectivement, vous dites, il y a un cousinage, en tous les cas, certain. Ils se comprennent et en même temps, lui va la heurter parce qu'il ne veut qu'une chose, c'est qu'elle refasse du cinéma. Et que c'est comme si elle manquait à son devoir, comme si être acteur... Mais moi, j'ai entendu des choses comme ça. C'est comme si on avait signé jusqu'au bout de sa vie.
C'est insupportable pour Churchill qu'elle fasse plus de cinéma.
Voilà, et qu'elle renonce à cette chose. C'est-à-dire que l'artiste a une place prédominante dans le monde, c'est un devoir, c'est presque comme rentrer dans les ordres, donc on n'a pas le droit. Mais vous savez, moi, à mon petit niveau, moi, quand j'ai passé quelques années sans faire de théâtre, des fois les gens disaient, on ne comprend pas, et des gens étaient fâchés, comme si on était obligé. On a commencé, il faut aller au bout jusqu'à 100 ans et mourir sur scène, etc. Il est de bon ton de dire, ma vie, c'est les planches. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de dire, la vie, ça peut être ailleurs que dans un théâtre, ou elle, en l'occurrence, c'est un plateau de cinéma. Elle appartient à ceux qui la regardent, quoi. C'est quelque chose.
Et ça, c'est très fort. On y reviendra, mais il y a aussi quand même ce sous-texte-là, notamment dans le rapport du regard des hommes sur elle ou du regard des mondes ou des réalisateurs. Mais c'est aussi une pièce où on voit deux grands comédiens sur scène qui ne cessent de parler de cinéma et de ce que c'est qu'être cinéma. On va en entendre un troisième, Jean-Louis Trintignant.
Le théâtre est une école indispensable pour faire du cinéma. Alors le théâtre, on s'éclate. Au ciné, je pense que c'est pas au ciné, c'est le metteur en scène qui s'amuse beaucoup, qui s'éclate, qui invente. Les acteurs, c'est beaucoup moins important. Et je pense que pour progresser au ciné, il faut avoir fait du théâtre, je pense.
Qu'est-ce que ça apprend, le théâtre ?
Oh ben, ça apprend à prendre un personnage et puis à le conserver jusqu'à la fin de la soirée. En plus, ce sont des rapports très, très chaleureux avec le public. Vous savez, quand on est sur scène, on ne voit pas le public, on est ébloui par les projecteurs. Mais on le sent terriblement. On sent, par exemple, quand on prend un temps qu'ils sont là à attendre, c'est très excitant. Je crois que notre vrai métier, c'est le théâtre. Notre vrai métier à nous, comédiens. Je pense pas que ce soit le cinéma. On fait du cinéma par vanité. Parce que c'est beaucoup plus gratifiant. Par cupidité aussi, parce que c'est beaucoup mieux payé. Mais sans s'enfre, moi je trouve qu'on ne devrait pas faire de cinéma. Terzieff, il me disait une fois, il faut surtout pas que tu fasses des choses enregistrées ou du ciné, parce que tu perds ton âme. Il a pas tort, je trouve. Je trouve qu'un comédien ne devrait jouer qu'en direct. Un musicien ne devrait jouer qu'en direct. Il devrait pas enregistrer.
C'est la voix donc de Jean-Louis Trintignant au micro de François Bunel. On est en 2012 dans le Grand Entretien sur France Inter, Ludmila Michael. Évidemment, dans ce dialogue imaginé entre Churchill et Garbeau, il est très souvent question de cinéma parce qu'elle s'est retirée et qu'on le disait tout à l'heure, ça lui est insupportable à Churchill, mais aussi parce qu'il y a quelque chose de leur conscience à tous les deux de ce qu'ils appellent le combat pour la beauté. On entend aussi des mots comme mettre l'art dans le cœur des gens, et quand ils le disent, ça paraît pas du tout une formule comme ça anecdotique, quoi. On sent qu'ils sont très concernés par cette question-là, tous les deux. Il y a Kala sur le bateau, faut dire aussi, quand même.
Voilà, Kala, c'est là, omniprésente, puisque c'est ce soir-là, Onassis va sans doute achever de séduire Maria Callas, et c'est Greta Garbo d'ailleurs qui défend Callas, qui a dit qu'elle est la plus grande artiste du XXe siècle parce que justement elle met l'art. Ce qui est beau, c'est qu'effectivement Greta Garbo n'était pas juste un sommet de photogénie, c'est que c'était une très très grande actrice absolument amoureuse de son art et qui avait démarré par le théâtre pour faire plaisir à Jean-Louis Trintignant. Et lui, ce qui est effectivement la découverte, c'est que peut-être tout le monde ne sait pas à quel point pour Churchill, c'est aussi, il dit, les grands artistes sont la vigie du monde. C'est quand même, c'est-à-dire comme des, donc, éclairs. Donc ça, c'est
quelqu'un aussi, qui a fait la guerre qui dit
oui,
ça.
Oui, qui dit ça. Donc quand même, c'est une pièce en hommage à l'art. Et ça, c'est quelque chose de très, très exaltant. Parce que je pense que nous, Nils et moi pensons là ça.
Bah oui, parce que forcément le sous-texte est assez drôle presque ou malicieux.
Oui.
Malicieux, c'est peut-être plus juste de voir deux comédiens qui sont là, qui ont donné une grande partie de leur vie au théâtre et ou au cinéma, qui s'interrogent dans le texte de savoir à quoi ça sert de faire de l'art. Est-ce que c'est important? Est-ce que vous avez la sensation, vous, en jouant, qu'il y a aussi ça qui se joue pour vous et Nils Arestrup, Ludmila Michael?
Écoutez, moi, j'ai beaucoup cette sensation, parce que ça fait 5 ans que je n'ai pas fait de théâtre. En fait, j'ai fui un peu, pour tout dire. J'en ai fait depuis l'âge de 17 ou 18 ans. Et pas qu'un peu, 20 ans au français, puis après tout le temps, enfin, partout. Et j'ai commencé à prendre tout d'un coup une année sabbatique, puis qui a duré un peu, puis j'ai refait du théâtre. Et j'ai mis de l'espace entre les pièces, ce qui n'était pas mon cas. Moi, ma vie, ça a toujours été avoir peur à partir de 4 heures de l'après-midi, aller au théâtre le ventre noué, et dire, ah, quand même, ça va, et repartir, enfin, sur les routes, que ce soit à Paris, que ce soit en province, une sorte de, c'est le mot anglais qui me vient, mais dedication, en fait, dédié à cet art, sans me poser de questions. Puis à un moment, j'ai voulu vivre. C'est bizarre ce que je dis, parce qu'en fait, quelquefois, quand on est sur un plateau, on a vraiment l'impression que la vie est plus grande qu'ailleurs. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on y reste. Pourquoi on est sur un plateau? C'est que c'est tout d'un coup une sensation de vie majuscule. Toutes les sensations, toutes les émotions sont décuplées. Donc c'est comme une drogue. Et j'ai voulu sortir de cette drogue à un moment, et là, ça fait, donc j'y arrive, mais en même temps, c'est très très dangereux, comme une désintoxication. C'est que quand on reprend, si on n'arrête pas, on a moins peur. Là, le fait de s'arrêter, et là, j'ai en même temps renoué avec ma drogue favorite, mais j'ai eu beaucoup, très peur. Et en même temps, je dis tous les soirs, et hier, je disais, mais c'est quand même extraordinaire, c'est quand même ma vie finalement. Enfin, j'ai passé ma vie, il y a ma vie ailleurs, ma vie affective, etc. Mais ça a été, c'est fou cette histoire, quoi. Et il y a quelque chose où je ne pourrais jamais finalement complètement m'en échapper. Et que ce que me renvoie ce que nous renvoie le public chaque soir, et cette, on peut dire, oui, communion qui existe très fort, c'est une responsabilité et c'est très important en fait. Et donc, il va falloir continuer peut-être.
Et pour vous deux qui naviguez, Nils Arestrup et vous-même, Ludmila Mikael, entre le théâtre et le cinéma, parce que vous en avez aussi fait, quand vous entendez Jean-Louis Trintignant dire « Notre vrai travail, c'est le théâtre et le reste, c'est cupidité et vanité », qu'en pensez-vous ?
Alors, deux choses. Moi, je suis ravie qu'on dise que le vrai travail, c'est le théâtre. Ce que je souhaite, c'est que je souhaiterais que tous les acteurs, un peu comme les Anglais, vous savez, qui on fait pas de cinéma sans avoir... une carte, enfin, je veux dire, Equity, voilà, ils sont très très sérieux. Être acteur, c'est un grand art, on fait pas ça comme ça, voilà. Alors que, bon, la nouvelle vague a été pleine de films merveilleux avec des gens qu'on a trouvés dans la rue. Donc on peut discuter des heures là-dessus, mais disons que l'art, évidemment, c'est le théâtre, et après, on fait tout, tous les comédiens anglais sont des gens qui sont des stars maintenant, Jeremy Irons, Hopkins, je sais pas, ils viennent tous, évidemment, Judi Dench, de Shakespeare, c'est la base. Et moi, j'adore cette idée qu'on vienne du théâtre. Mais je ne trouve pas que le cinéma soit juste une histoire de cupidité.
Ou de vanité.
Ou de vanité, je ne pense pas. Je pense que moi, quand j'étais petite, ma passion, c'est j'ai vu les films chaque fois, je ne sais pas, 10 fois, j'apprenais par cœur. Je pense que le cinéma, c'est un très très grand art. Peut-être plus du metteur en scène, mais être très bon au cinéma, c'est très difficile aussi. Je trouve que faire une grande interprétation au cinéma, c'est d'une grande difficulté. Ça n'est pas... juste, vous voyez, on peut... Parce que aussi en France, un peu moins maintenant, je suis ravie que les nouvelles générations commencent à dire « on a travaillé ». Vous savez, mais c'était pas du tout une valeur dans le cinéma quand vous voyez des interviews d'acteurs de cinéma. « Oh bon, on s'est bien amusé », enfin c'était vraiment une sorte de fête permanente, pas du tout. Là maintenant, je sais pas, ils ont pris ça des anglo-saxons, tout d'un coup, pendant 6 mois, ils s'exercent, ils apprennent le violon, ils grossissent, ils maigrissent, ils vont dans les prisons. Mais moi j'adore ça, et ça c'est très anglo-saxon. Et c'est évidemment le travail qu'on peut faire aussi pour un rôle de théâtre. On peut travailler de la même manière pour aborder un rôle au cinéma. Mais moi je suis trop folle de cinéma comme spectatrice pour me dire que c'est juste... Évidemment, les rapports d'argent, c'est incroyable, parce qu'on,
c'est encore une autre question. Mais ah bon, bon ça, la bien vanité et cupidité entre dans la question de
oui.
Ce que disait Jean-Louis Trintignant. Mais c'est intéressant parce que Churchill, à la fois, il est fasciné par Greta Garbo, mais ce qu'on apprend, c'est ce qui lui glisse aussi, c'est dans les moments cruciaux, dans les moments où c'était difficile, dans les moments en pleine guerre, dans les moments où je devais prendre des décisions qui engageaient la vie de centaines, de milliers d'hommes, je regardais vos films.
Oui, et surtout...
C'est quand même pas rien.
Oui, il regardait... la reine Christine, et il lui dit « La force qui se dégageait de vous m'en redonnait. » Donc vous vous rendez compte, la force d'un acteur, ou d'un artiste, ou d'un chanteur, d'un danseur, d'un auteur, d'un peintre. Et c'est vrai que c'est beau, moi, à chaque fois que j'entends ça, je trouve ça, en fait, ça, c'est revigorant. Mais je pense aussi que les acteurs de cinéma peuvent amener ça, même s'ils le font que par cupidité ou par, par vanité. Mais... quand même, je sais pas, les grandes interprètes de Bergman ou je sais pas, il y a quand même des acteurs qui ont marqué. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux. What I am certain
enough is just to remember that once I was loved, I still surrendered to troubles unknown. No use pretending all the troubles ain't my own. It's just to remember that once I was loved. After the years gone by, what amounts to the years in a life? What have we come to when we reach our final days? If we can surrender, then that is enough. Just to remember.
Je dois dire que moi, j'adore les premières tout en crevant de trac, parce qu'il y a une atmosphère extraordinaire, on est survolté, on est mort de trac, c'est un fait, mais il se passe aussi quelque chose qui est inexplicable et qui n'existe que les soirs de première. C'est on gagne ou on perd, mais si on gagne, c'est extraordinaire. Et on a besoin de cette première, je crois, pour l'affronter, pour se dépasser soi-même. Sinon, je crois qu'on s'endormirait dans un petit train-train régulier, mais c'est parce qu'on sent cette première arrivée qu'on veut se surpasser et qu'on gamberge, si je puis dire. Qu'on se dit, mon Dieu, il va y avoir un tel, 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 mais c'est affreux. Et on rentre là-dedans comme dans une cage à lion. On est fauve et il faut absolument les dompter. Et c'est formidable si on arrive à gagner. Moi, je trouve ça extraordinaire.
Edith Piaf, en 1957, c'est elle qui est extraordinaire avec cette énergie comme ça intacte, cette archive où elle dit on perd ou on gagne lors des soirs de première. Je disais tout à l'heure, Ludmila Mikael, que dans cette pièce, il est question de solitude, de liberté, de prix à payer pour les deux, de stratégie pour la guerre ou pour l'amour, et de jeu. Est-ce que vous vivez les choses de cette manière-là? Est-ce qu'on perd ou on gagne?
Je crains bien que oui. Oui, parce que j'aimerais bien ne pas vivre comme ça. Mais je m'aperçois qu'en fait, depuis que j'ai commencé à être sur un plateau, il fallait gagner de toute façon, ne serait-ce que en entrant par exemple au conservatoire où je suis rentrée sur un coup de tête sans avoir pris de cours, et tout d'un coup, j'ai gagné. Et j'ai quand même eu le sens, même sans me dire il faut gagner ou perdre, en fait, je suis arrivée comme au combat vraisemblablement. Cette notion de combat, oui, finalement, je l'ai toujours. Et je l'ai pas que les soirs de première, mais je l'ai tous les soirs.
Et on gagne au nez de quoi? Du destin? Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne, prosaïquement, on gagne une salle, on gagne de la confiance, on gagne sur son chemin de vie lorsque vous entrez comme ça au conservatoire, on gagne sur ce qu'on n'aurait pas dû faire ou pas pu.
En fait, on gagne, oui, on gagne la vie. C'est-à-dire que je pense que c'est plus être sur son chemin de vie. C'est-à-dire que c'est une question de survie presque. J'ai toujours une sensation, moi, de survie. Il faut se battre. Enfin, se battre, c'est pas ça. Mais au moment où on est là, c'est une question. Vie ou de mort serait quand même très tragique. C'est pas tout à fait ça. Mais quand même, c'est important. Enfin, en tout cas, la représentation théâtrale, puisque c'était ça que je fais depuis si petite, en fait. C'était ma manière, moi, de vivre, de me sortir de beaucoup de choses, vraisemblablement, et d'exister et de joie aussi. Enfin, c'est positif, c'est pas un combat contre, c'est un combat pour rayonner, pour s'exprimer, pour communiquer, pour ça, c'est-à-dire c'est un combat de lumière. C'est pas du tout un combat contre les autres, c'est au contraire un combat pour la vie, vraiment.
Et quand on perd, qu'est-ce qu'on perd?
On perd confiance, en fait. On perd confiance, on est On perd facilement confiance. Hein. Moi, je m'aperçois de choses, un petit mot de travers, quelque chose. Et c'est pour ça que c'est des métiers quand même bizarres. Parce qu'on devrait être en distance avec ça. Mais en fait, ça se joue avec notre propre corps, avec notre voix, avec nos nerfs, nos battements de cœur, notre physique. Donc, quand il y a contestation, on est touché directement. C'est-à-dire qu'il y a, c'est difficile de mettre à distance le personnage et de dire on peut très bien ne pas aimer ce spectacle, votre personnage, votre costume, n'importe quoi, et être raisonnable. Mais souvent on ne l'est pas raisonnable. Parce qu'en fait, on a identification avec ce qu'on fait. Il y a une sorte de chose très fusionnelle et, qui est étrange. Mais je trouve que c'est quand même une profession bizarre de décider quand on est jeune de, mais encore une fois, parce que voilà, c'est ça, en tous les cas, sans doute, ce destin-là, enfin, vous a poussé. Enfin, il y a quelque chose qui pousse vers, oui, comme, quand même, comment dire, je sais pas. Oui, je crois au destin un petit peu. Enfin, ça, on peut pas faire autrement. C'est comme, je pense que si on peut échapper à cette profession, il vaut mieux pas la faire. Voilà.
Manifestement, il y a un metteur en scène qui donnait confiance, en tout cas Dominique Raymond en parle, c'est Gruber.
C'est incroyable d'avoir eu cette immense, immense, immense chance, privilège d'avoir croisé la route de cet homme. Chaque jour, je me dis, la chance que j'ai eue, tant pis si on fait plus rien après, mais on a rencontré Klaus. Et rencontrer Klaus, c'est la chose la plus belle qui puisse arriver à un acteur. C'était un homme absolument incroyable. Alors lui aussi aimait les gens. Et les notes qu'il donnait à la fin d'un filage, ce sera « aime, aime-le ». Donc il parlait énormément d'amour et il savait réellement, il aimait les gens chacun pour lui-même, différemment. Et chacun se sentait le roi avec lui. Il était absolument prodigieux. Ses répétitions étaient comme un espèce de moment de grâce incroyable où effectivement il chuchotait beaucoup en nous demandant de parler beaucoup plus doucement. Il disait toujours roux, calme, doucement. Chut, dès quelqu'un disait une réplique, chut, tout ça. Alors c'est comme c'était pour la mort de Danton et qu'il y avait les tribuns et qu'à un moment donné ils sont quand même un peu obligés de hausser la voix. Il y avait un acteur à la première lecture qui s'appelait François Clavier qui s'est dit ben non moi je puisqu'ils hurlent je vais le faire fort quoi. Alors négligeant les consignes de Klaus, il s'est mis à parler très très fort sur sa réplique, même à crier. Et Klaus est resté absolument impassible et après lui a dit oui, d'accord. Mais alors, beaucoup, beaucoup plus fort.
C'est la voix de Dominique Raymond qui à ce micro en mars 2018, nous parlait de ce travail avec Klaus oui. Michael Gruber. Oui. Elle dit quand on l'a rencontré une fois, quand on a travaillé avec lui, c'est possible de se dire « Ok, c'est pas grave de ne rien faire d'autre », tellement c'est fondateur. Vous êtes aussi passé par ces mises en scène, par côtoyer Klaus Michael Gruber dans le travail. Est-ce que ça procédait de cette idée-là, il aimait chacun et chacun pour lui-même?
Mais absolument, et il aimait... je pense qu'il était médium, voyant. C'est-à-dire qu'il savait très bien, il serait là, il vous regarderait, il saurait tout, il vous aurait scanné. Il sait, il connaît, et peut-être parce qu'il aimait plus. Si on aime beaucoup, en fait, on comprend. Peut-être que c'est ça dont il s'agit. Et elle décrit exactement, moi j'ai fait Bérénice avec lui, c'était mon dernier spectacle à la Comédie Française. Et chaque jour je pense à lui, en particulier quand je joue au théâtre. Parce que j'aimerais qu'il soit là. J'aimerais qu'il passe simplement 2 secondes dans la salle ou qu'il regarde une représentation. Parce que je pense qu'il ne me dirait qu'un mot et que ce serait exactement ce qu'il faut dire. C'est comme un maître, c'est bien plus qu'un metteur en scène. C'est comme un, je sais pas, j'ai pas rencontré de maître spirituel.
Spirituellement, vous voulez
dire.
Mais
c'est ouais. De ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que il menait les gens à une vérité absolue, et tant que cette vérité n'était pas du tir à l'arc, si vous voulez, comme un art, un très grand art, et il disait non. Moi, c'est pas tellement qu'il disait chute, il disait chute aussi, mais il disait non. Mais sans expliquer pourquoi non. Donc après, et finalement, quand on était là, quand c'était là, il disait lumière, ça s'arrêtait. Et en fait, on avait compris. Et il y avait une chaleur chez lui, une...
C'est marrant, c'est presque comme une analyse, quoi.
Mais
il,
presque.
Il scandait.
C'est ça, il scandait. Et une chose qui était belle, c'est qu'il disait, aime-le, le personnage, mais moi, ce que j'ai toujours, qui m'accompagne toujours, c'est qu'il faut consoler ces personnages.
Tout à l'heure, vous disiez se faire l'avocate de Greta Garbo. Il y a quelque chose d'assez proche, en
très
fait.
Très proche. Et en fait, c'est beau. Moi, en plus, j'adore Dominique Raymond. Et c'est vrai que ceux qui ont travaillé avec Gruber, je vous dis pas qu'on fait partie d'une secte.
Et vous vous reconnaissez.
On se reconnaît. C'est bien sûr qu'on a traversé la même expérience et que c'est une chance qu'on a eue. Moi, il m'a repéré. Je ne sais même pas repéré. Je crois qu'il m'a. Je ne sais même pas s'il m'avait vu jouer d'ailleurs. Il faisait distribution à la Comédie Française. Toutes les actrices, tout le monde était tout excité parce qu'on allait monter Bérénice. Puis moi, je crois que je suis la dernière qu'il ait vue dans un bar d'hôtel complètement sombre à l'heure du déjeuner. Il était là. Il était très grand, très timide. Il était assis avec ses grandes jambes. Je lui ai dit bonjour. On n'a pas dû se dire deux mots. Enfin, il m'a regardé. Puis après, il a téléphoné à Jean-Pierre Vincent. Il dit ce sera elle. C'était une chose incroyable. Et effectivement, c'est l'amour qui se dégageait était inouï. Et je pense que c'est quand même un des grands secrets de toute manière. Voilà.
Et il y en a un autre qui parle d'amour.
Je exprimerai mon idée en disant que la clé d'un homme se trouve dans les autres. C'est le contact que nous avons avec le prochain qui nous éclaire sur nous-mêmes et d'où jaillit souvent la lumière sur notre caractère. Ça, par la manière dont nous réagissons les uns à l'égard des autres, que nous nous comprenons et que nous nous faisons comprendre. Et la manière essentielle, justement, de se connaître, c'est l'amour. On dirait que Dieu a voulu que la clé de notre personne, cette clé essentielle que nous cherchons de tous côtés sans réussir à la trouver, quelquefois, il arrive que nous sentons, et d'une manière absolument irréfragable, sans que nous puissions y contredire, c'est qu'elle se trouve dans une autre personne, sans que nous ayons le moyen de le réaliser. Dans Partage de midi et dans Le soulier de satin, les deux personnages, ou les quatre si vous voulez, réalisent d'une manière complète que cette clé, que cette énigme de leur propre personne, que cette être qu'ils auront à réaliser ne se trouve pas en eux-mêmes, qu'ils se trouvent en un autre, et que c'est l'autre qui connaît en somme leur véritable nom, ce nom par lequel on s'appelle et par lequel l'autre vous appelle, en somme vous appelle à quoi ? Vous appelle à l'existence.
Incroyable archive de Paul Claudel.
Oh, ouais.
Dans une émission oui. Surpris par la nuit, élaborée par Joël Gayot en 2003 et diffusée sur France Culture. Paul Claudel qui dit beaucoup de choses dans cette archive, mais qui parle du détour par les autres pour se connaître soi-même, et du fait que ce sont les autres qui connaissent en réalité notre nom, ce qui résonne avec éventuellement peut-être le travail que vous avez pu mener sur les textes de Claudel, Ludmila Mikel, mais si on fait un petit détour et on revient à ce dialogue imaginé entre Churchill et Garbo que vous interprétez, aussi l'idée que peut-être l'autre connaît mieux le nom, notre nom, peut-être... Il y a quelque chose qui se joue entre eux qui est de cet ordre-là. Elle ne cesse de lui dire « mais arrêtez de parler à ma place, arrêtez de penser que vous me connaissez mieux ». Et en même temps, parfois, elle est stupéfaite de la vérité du miroir qu'il lui tend.
Oui, peut-être parce que justement, il l'aime, effectivement. Donc il la révèle et il révèle son être profond. Et l'amour est un grand révélateur. Claudel, c'est quand même dans une vie, c'est absolument. Alors, on peut très bien
de l'avoir joué, vous
de l'avoir
dire.
Joué et de
et lu,
lu et écouté. Enfin, je peux tout à fait accepter qu'on n'ait pas envie de jouer du Claudel ou que quand même, en tant que spectateur, on trouve ça abscon, difficile. Moi, ça a été comme une sorte de révélation, un peu. C'est un théâtre extrêmement mystique, extrêmement bouleversant. Et voilà, et surtout la rencontre d'Antoine Vitesse sur Claudel. Et ça, c'est aussi, on parlait de Klaus, mais rencontrer Vitesse sur Claudel, c'était inouï parce qu'il donnait l'impression qu'il connaissait tout, et aussi de la manière de le dire, c'est-à-dire qu'il avait ça en lui, comme des gens qui savent très bien diriger, je sais pas, Verdi ou voilà, lui, Claudel, il l'entendait. Comme une musique profonde là aussi c'était sont des moments totalement bouleversants et de révélation de soi-même. C'est vrai que être aussi ce parcours qu'on fait à travers les textes, à travers les rôles, c'est aussi une connaissance de soi. On ne se connaît pas à 18 ans et petit à petit à travers les personnages qu'on va et le cousinage qu'on va pouvoir trouver, enfin et l'universalité finalement des humains, c'est-à-dire c'est ça, c'est qu'en fait on a quelque chose en commun tous. Et ça prend des formes différentes, des rythmes différents, des langues. Mais au fond, c'est ça qui, et c'est ce qui fait aussi que le public peut être en proximité d'un acteur. Mais c'est parce qu'on est aussi avec, en fait, on parle de, d'ailleurs, Claudel écrit un texte magnifique dans l'échange sur le théâtre. C'est Litchi qui dit à Marthe, qui dit, mais vous ne savez pas ce que c'est que le théâtre, ma petite? Et elle, il y a une description de ce que c'est que le théâtre, c'est-à-dire que les gens sont là avec les mains sur les cuisses, il y a la femme adultère, il y a l'homme dont l'enfant est malade, il y a celui qui pense à... C'est-à-dire que, et tout d'un coup, il se voit, c'est-à-dire il y a cette chose de voir l'autre sur le plateau qui vous raconte et qui, exactement, et c'est donc c'est assez...
D'ailleurs, c'est peut-être ça que les comédiennes et les comédiens apprennent davantage que... soi-même, c'est l'humanité et donc la dignité égale qui existe entre les existences.
Absolument. Ça, c'est normalement, ça doit nous rendre plus humains d'être.
Ça marche.
D'avoir la...
avec quelques années d'expérience. Avec Mila Miguel.
Oui, disons que je ne sais pas. En tous les cas, je comprends mieux. Je m'intéresse plus sûrement profondément aux autres quand même, et je les comprends mieux et je les sens. Enfin, plus oui. Mes frères et sœurs, enfin, sans faire de discours, voilà. C'est oui, nous sommes faits de la même essence et il y a quelque chose qui nous rapproche. Moi, j'aime, en fait, là, ce qui va sans doute me faire continuer à faire du théâtre, c'est ça. C'est rien ne peut me toucher plus que les personnes qui m'attendent ou qui attendent ou anonymes et qui ont reçu quelque chose avec qui on a communiqué et qui font mieux comprendre, mieux peut-être. C'est, voilà, il y a une vraie oui, force, une chaleur.
Est-ce que vous comprenez quand Greta Garbo veut voyager incognito sous le nom de Miss Brown? Est-ce que vous comprenez quand elle veut ne plus être sous le regard public ni sous le regard d'un réalisateur? Est-ce que vous comprenez ce désir de silence-là?
Je pense qu'elle a été, quand elle était cette star incroyable, hein, faut imaginer, c'était la plus grande actrice, au moins pendant 15 ans à Hollywood, disons, vraiment. Elle était harcelée par les paparazzi, par les médias, partout. Elle fuyait tout le temps, elle ne voulait pas se montrer, elle fuyait ça. Ça, c'est une chose qu'on peut imaginer, encore à notre époque, pour les stars du showbiz, et peut-être moins le cinéma, mais le théâtre, pas du tout, mais disons, voilà, et que ça devient une angoisse terrible. Il y a eu ça pendant sa carrière, et après, je pense qu'elle a fui ça, et elle... C'est vrai qu'elle avait une hantise du regard de l'autre. Et je pense qu'elle a toujours été comme ça. Et c'est très contradictoire puisque être acteur, c'est s'exposer. C'est d'une impudeur incroyable. On s'expose et en même temps, on ne veut pas être regardé. C'est cette contradiction tout le temps. Et ça, je peux très bien le comprendre parce que c'est autre chose.
Jouer, s'exposer, être regardé, c'est pas pareil.
Ça n'a rien à voir. Mais de toute façon, c'est le personnage qui s'expose et qui s'exprime et qui va vous communiquer quelque chose. Soit Greta Garbo, être regardée et surtout avec les rides qui arrivent, avec le vieillissement, star à Hollywood, mais on peut dire encore maintenant, c'est-à-dire que dès que, oh là là, mon Dieu, l'obsession de parce qu'elle avait un physique inouï, elle, et puis c'est vrai que dans La femme aux deux visages, je l'ai beaucoup revue, là, on peut pas dire qu'on voit les traces du vieillissement qui arrive, pas du tout, c'est surtout que c'est pas un film extraordinaire, où elle est pas tout à fait à l'aise, mais elle en parle là, elle dit voilà, mais regardez-moi, je vais m'étioler. Et elle n'a pas envie qu'on commence à compter ses rides, etc. Et elle n'a pas envie non plus de passer sous les scalpels d'un chirurgien esthétique qu'elle aurait pu. Déjà, il y avait, ça existait déjà. Quand elle a, enfin en tout cas dans les années 50, 60, elle aurait pu.
Et Churchill, on l'imagine très sincère dans le dialogue qu'Isabelle Le Nouvel écrit, lui dit mais vous vous trompez en fait. Vous trompez, le visage que vous avez là est peut-être bien plus beau que le visage que vous aviez il y a 30 ans.
Oui, mais ça, c'est... Oui, je pense que lui est sincère, mais ça n'est pas ce que pense la majorité des gens. Quand on voit une actrice, même si il est toujours de bon ton de dire « Oh là là, mon Dieu, elle est toute refaite, mais quelle horreur, mais sa bouche, c'est machin. » En même temps, quand quelqu'un ne le fait pas, on dit « Mon Dieu, mais comment elle a vieilli, mais c'est affreux. » Quand elle a un visage normal d'une femme qui vieillit, je ne vais pas citer de nom, moi je suis extrêmement choquée par cette misogynie, parce que justement, elle n'est parfaite. Alors, il y a aucune... qu'est-ce qu'on fait? on touche, parce que pour prolonger une carrière, c'est ce que font toutes les actrices, toutes, c'est impossible je parle du cinéma évidemment, pas du théâtre, de ne pas faire des petites choses, mais de plus en plus des petites choses, parce que si on ne le fait pas, de toute façon, on est attaqué sur le physique. Donc, il y a quelque chose qui... Et elle a
où les femmes sont acculées par une grande violence qui voilà. Est le regard porté sur leur corps incessamment. C'est-à-dire de leur jeunesse à les trouver toujours érotisées, sexuelles, jusqu'à leur vieillesse où on les trouve dévastées par le temps.
C'est exactement
ça. Dans l'impasse, quoi.
Toujours dans l'impasse. Et je trouve, en plus, bon, Alpha Garbo, c'est une féministe avant l'heure pour moi. C'est quelqu'un qui... D'ailleurs, au moment... Elle a voulu la parité des salaires, par exemple. C'est une chose dont on ne sait peut-être pas. Mais elle s'est battue pourra être payé autant que ce qui n'est toujours pas le cas d'ailleurs actuellement. Et puis elle ne voulait pas être un objet, non, absolument pas. Et je pense que c'est quelque chose, c'est à sa gloire. C'est peut-être dommage effectivement qu'elle ait pas fait un peu. Il y a eu des projets avortés, dont un grand projet de la Duchesse de Langeais, ou qui était à peu près dans la période dont on parle pendant la pièce, et où là on sent qu'elle a eu envie quand même encore. Elle a pas, on peut pas dire un jour tiens. À 41 ans ou à 40 ans, je sais pas, j'arrête. Ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été Bardot, par exemple. Mais petit à petit aussi, les studios sont détournés d'elle. Mais elle a eu des velléités. C'est vrai qu'elle a rencontré Visconti, elle a même rencontré Bergman. Il y a eu des projets, mais rien ne s'est fait. Rien n'a abouti. Et peut-être qu'elle dit, comme elle dit, j'en ai peut-être souffert, mais c'est comme ça. Et elle est rentrée dans ce choix de se cacher. Moi, je comprends très bien de se cacher. C'est insupportable que les gens vous regardent pour vous dire, bah, finalement, oh là là, oh mais tout le monde a cette cruauté. Dès que quelqu'un passe 3 secondes à la télévision, entre, oh, elle a pris du ventre, non? C'est pas ça, non? Bah, dis donc, ça lui va pas du tout, cette couleur de cheveux. Ah oh, oui. Beaucoup plus sur les femmes. Immédiatement. Cette toujours. Connotation sur le physique, mais c'est insupportable. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre pour et elle qui a été sublissime, la plus beau. Enfin voilà, c'est d'autant plus difficile quand une femme a été à ce degré de beauté, quoi.
D'ailleurs, oui. Churchill dit à la fin de la pièce, mais peut-être que le courage, c'est s'asseoir et se taire.
Peut-être.
Il dit ça.
Oui,
ça
oui, c'est vrai.
Parce qu'il attend en juin à reprendre le cinéma.
Et en même temps, oui.
Et peut-être qu'il la regarde partir en disant, bon, peut-être que c'est ça
peut-être
le courage.
Que c'est. En tous les cas, c'est un courage. Pour moi, c'est pas du tout de la part d'une femme comme ça. Son renoncement n'est pas une faiblesse du tout. Elle a le droit, surtout. Il faut lui laisser le droit. Parce que je pense que c'est un personnage assez clivant aussi. Parce que cette volonté de mystère, de refus, ça a été, les gens ont été agacés aussi par elle. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'elle cache? Peut-être du vide, au fond. Mais elle est tout sauf vide. Et puis cette enfance et cette chose qui, et puis cette impossibilité qu'elle a eue de fonder une famille, de vivre vraiment, un engagement, qu'il soit avec une femme ou avec un homme, parce qu'on lui a prêté une bisexualité. Elle n'y est pas arrivée. Elle est restée dans une, mais ça, on va pas faire sa psychanalyse de là maintenant, mais elle a le droit, en fait. Elle a le droit de ne plus vouloir. Parce qu'elle, je pense qu'elle était heureuse au moment où on disait action et couper. Je pense qu'elle était dans une vibration et dans une vie et dans un don d'elle. Mais tout ce qui était autour, elle détestait ça. C'est vrai qu'elle, de temps en temps, on la voyait dans certaines soirées, mais très rarement. Elle ne jouait pas le jeu, comme Dietrich a joué beaucoup plus qu'elle. Ce jeu de la célébrité, elle pouvait tout d'un coup dire oui, je vais venir dîner, par exemple, parce que, ah oui, quelquefois ces choses qui, est-ce qu'on peut vous inviter à dîner demain? Mais demain, je ne sais pas si j'aurai faim. Donc déjà, ah bon, très bien. Et si enfin elle acceptait et que tout d'un coup elle voyait quelqu'un qu'elle ne sentait pas, elle fuyait, elle s'en allait, était très libre. C'est excessif. Elle n'était pas sociable. Mais moi, j'aime assez ça. J'aime assez cette sauvagerie. Cette force-là de dire, bah non, non, non. Je vais pas continuer à ce jeu-là. Et qu'on demande beaucoup, en tout cas aux actrices de cinéma, oui.
Et d'ailleurs, Churchill aussi aime dans la pièce voir cette femme qui, ça l'agace, mais la manière dont elle a de se refuser, de pas non plus complètement tomber dans le panneau d'Onassis, d'être assez lucide sur les différentes prédations masculines, ça l'intrigue. C'est pas seulement, il est renvoyé à quelque chose de libre, lui qui a tant d'amour pour la liberté.
C'est ça, et d'ailleurs, on parlait de leur cousinage tout à l'heure, on disait, il y avait le chien noir, il y a l'enfance massacrée, mais il y a aussi le goût de la liberté.
Bien sûr, ils en parlent beaucoup.
Beaucoup, qu'ils ont vraiment en commun. Non, non, mais je pense que ce qu'elle est devenue et l'a fascinée aussi, même si il veut absolument la revoir sur... Je pense que c'est cette rencontre les aura modifiés tous les deux. Ce serait intéressant, enfin c'est évidemment imaginé, mais ça ne les laisse pas indemnes. Même s'ils ont l'air de rester sur leur position, je pense que chacun a pu ébranler l'autre. Je pense qu'elle est aussi ébranlée. Quand il lui dit, voilà, vous me donniez de la force quand je vous voyais au cinéma. Et effectivement, son refus à elle et cette liberté, enfin courageuse, c'est vrai par rapport à Onassis, c'est l'anecdote qu'il parle des tabourets de bar, enfin ce côté... alors c'est bon, c'est pas l'anecdote, mais moi quand j'étais petite, je regardais les Paris Match et je rêvais quand je voyais des photos d'Onassis, de Callas, la fin des années 50, tous ces gens sur les yachts, et je trouvais, je n'ai pas eu la chance de rencontrer Onassis, mais je me disais, il doit être irrésistible cet homme, d'une manière ou d'une autre, il devait avoir une force, mais folle, pour arriver à séduire les plus belles femmes du monde, avec ce physique un peu comme ça.
Et pourquoi pas leur faire mal 15 jours après, quand même.
Voilà, c'est exactement ça, et les détruire. Donc, non, c'est bien qu'elle ait cette lucidité, ce recul, enfin, c'est un beau personnage.
Et justement, pour conclure, peut-être 2-3 mots sur l'autre personnage, Neil Sarestrup en Churchill. Je l'ai trouvé assez sidérant, quoi. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous la fois où vous l'avez vu apparaître sur sa chaise roulante en Winston Churchill.
Ben je l'ai vu, ça s'est fait. C'est une progression, c'est comme oui, c'est de l'artisanat ou de la sculpture. Souvent, je pense à la sculpture pour notre travail parce que souvent, en fait, il faut ôter pour créer. Il y a une sorte de masse, un peu en général. Il y a le travail, et puis petit à petit, on va retirer, sculpter, et ça se dessine. Et petit à petit, c'est vrai, d'ailleurs, je lui ai dit tout par moment, j'ai vu Churchill, ça a été un choc. Et la première fois, c'est en répétition, c'est-à-dire on était dans le jeu. Tout d'un coup, ça a été comme une fulgurance. Et puis, je l'ai vu travailler, c'est vrai qu'il réussit. Parce qu'en fait, c'est pas un travail d'imitation, c'est un travail d'imprégnation, c'est un travail de suggestion et en même temps, c'est-à-dire là où se rencontre la nature d'un acteur et un personnage. C'est quelque chose qui se passe par l'intérieur et qui se fait et qui arrive et c'est vrai que c'est très impressionnant.
Bon alors gageons qu'en janvier vous serez à la quintessence de Garbo et Churchill.
J'espère que c'est... Moi j'aime l'idée qu'on progresse chaque jour. Ah oui, j'adore ça.
Merci beaucoup Ludmila Mikael. Scorpios, au loin, la rencontre entre Garbo et Churchill, c'est donc au Théâtre des Bouffes Parisiens jusqu'au 6 janvier avec Nils Arestrup, vous-même, et Baptiste Roussillon. La mise en scène est signée Jean-Louis Benoît et c'est une pièce d'Isabelle Lenouvel. Au son ce soir, c'était Bruno Gagnère-Fontani à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h, quand vous voulez, sur franceculture.fr. Vous pouvez réécouter cette émission et vous abonner au podcast et aussi nous écrire, trouver la référence des archives et des musiques. Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain Debec-de-Lièvre, Marianne Chassor, Lou Quevauvillier et Anna Baron qui m'aident à penser et préparer cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée sur France Culture.